disais, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous avez dit. Il n'y a pas de clivage gentil-méchant dans la saveur du film. En tout cas, il est beaucoup plus subtil que manichéen. C'est une question. Après,
il y a
une opposition, on va dire.
Il y a une opposition.
Mais elle est plus philosophique, finalement, presque, ou en tout cas de vision des choses.
On est dans le point de vue de Moana. Pour Moana, il y a des méchants, c'est sûr, et justement, c'est en grandissant qu'elle va apprendre que c'est plus compliqué que ça. C'est pas du noir ou du blanc, et justement, c'est quelque chose qui fait partie de son cheminement. Le méchant, ça ne peut pas être avec lui.
Disons qu'une société qui marie des petites filles à 10 ans, ça peut. Comme ça, le premier abord, c'est un peu.
Il y a un côté manichéen au début, et puis c'est aussi parce que c'est la vision de Moana. Enfin, ces gens-là, finalement, ils sont totalitaires, certes, mais eux, ils sont persuadés de vrai pour le bien humain. Alors, c'est un égo surdimensionné pour décider pour tout le monde, ça, c'est sûr, il y en a d'autres, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est pas forcément des gens qui font ça pour faire du mal.
Parce que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que la vision du monde de Béni, elle est, passéiste.
Non, elle n'est pas passéiste, elle est celle d'une dame de 80 ans. Est-ce qu'elle peut.
C'était mieux avant.
C'était pas forcément mieux avant, de manière générale, mais pour elle, c'était mieux avant. Elle n'est plus à un âge où, de toute façon, elle va essayer de changer un monde, de toute façon, qu'elle va quitter. Donc, elle regrette des choses qui ont disparu, et il est trop tard pour elle pour réussir à se satisfaire de ce qu'il y a devant. Il n'y a plus rien devant. Mais par contre, Moana, elle se satisfait de ça, elle ne va pas avancer, elle va être bloquée. Et donc, Mémine, elle est égoïste quand même. Et elle le reconnaît, elle dit, je sais bien que quelque part, j'entraîne ma mère petite fille dans quelque chose qui ne va pas être uniquement bien pour elle. Mais qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est de transmettre ça.
Et en même temps, là où Moana aurait pu être condamnée à rester toujours au même endroit, avec finalement des horizons assez restreints, par l'épopée dans laquelle elle l'entraîne, elle lui ouvre un champ des possibles absolument incroyable.
Voilà, c'est peut-être là où elle se dévoile, en disant, je ne peux pas lui offrir quelque chose de meilleur en soi, je lui offre de l'aventure, peut-être la chance d'être trouvée toute seule.
Là encore, l'écriture joue un rôle important, parce que même si on est sur une terre qui est glacée de partout, il reste quand même des éléments constitutifs des endroits où les personnages passent. Hein. On part de la Polynésie, on va vers Pondichéry, qui est devenue la capitale de ce nouveau monde sous la glace, et puis on va aller jusqu'en Corse. À chaque fois, là encore, il faut bien planter le décor, parce que même si ce ne sont pas les lieux qu'on connaît aujourd'hui tels qu'on les connaît, il reste quand même... Ils doivent rester identifiables.
Oui. Il y a un travail là-dessus, un dossier considérable sur dans le bateau vagabond, sur le cul, qui est en fait l'ancienne base en Floride, l'ancienne base spatiale. Alors j'ai plein d'images, j'ai des plans, du bâtiment et tout pour que ça colle, pour que ça marche. Mais tout ça, il me semble que le travail aussi c'est de l'effacer, de faire en sorte qu'il ne reste pour le lecteur que ce qui est important. Ce dont il a besoin pour avancer dans l'histoire. Donc, il faut faire tout ce boulot-là de recherche, que ça semble cohérent, comme tu disais tout à l'heure, Paul, mais après, il ne va pas rester trace de ces travaux-là, pour passer la liste.
Alors, justement, Paul, dans un univers de fantasy, il faut aussi instaurer un système de valeurs qui n'est pas forcément celui qu'on a, nous, dans notre monde actuel aujourd'hui.
La notion de bien et de mal,
par exemple,
la morale.
Par exemple.
Alors, il faut se méfier parce que, oui, effectivement, c'est très intéressant. C'est inventé dans un autre monde, tout inventé, on peut également inventer la notion de bien et de mal qui sont différentes. Qui les permettent de voir que là, les nôtres sont.
Ou un peu plus fous, peut-être.
Un peu plus fous, oui. Qui les permettent de jouer avec les nôtres. Parce que, écoute, on a beau écrire de la fantaisie, ce qui nous intéresse, c'est toujours notre monde à nous, les hommes en général, et on parle toujours de nous. Et donc, la fantaisie permet de remettre ça en perspective. sais pas, comme vous avez vu, vous avez un exemple en tête, hein,
Non, pas particulièrement, mais justement voir comment est-ce qu'on réfléchissait à ça, justement peut-être pour pas trop faire un calque dans son univers de fantasy, de finalement de ce qu'on connaît au quotidien, parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir la volonté de se démarquer un peu.
Et ça, si on écrit de la fantasy, c'est pas pour écrire de la littérature générale, exactement. Il faut qu'il y ait des éléments de fantasy. Par exemple, si vous dites que la magie est une chose mauvaise, ça n'a aucun sens dans notre monde. Enfin, si ça a un sens, ça reflète l'idéologie catholique dans la fête du siècle. Mais c'est quand même très différent d'un univers de fantasy. Si elle est mauvaise, peut-être qu'elle est vraiment mauvaise, parce que tous les sorciers sont méchants et qu'ils vont combattre la magie, qui est quelque chose qui va détruire le monde. Mais ça va nous faire réfléchir sur ce que c'est que la magie, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnages, qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes, de nous, les hommes.
Les peuples même à l'intérieur peuvent très bien aussi être connectés, on va dire ça comme ça. J'imagine que quand on a, si on met en scène un peuple en particulier ou une espèce, là aussi ils vont peut-être avoir une connotation plutôt gentille, plutôt méchante. Leur rôle après dans l'histoire va faire qu'ils vont se retrouver plutôt bons, plutôt méchants.
J'ai du mal à vous répondre parce que chez moi il y a un peu des humains.
Il n'y a pas un petit elfe, un truc
Ah non, il n'y a pas de petit elfe.
Mais justement, quand même, il faut arriver à trouver voilà, cet équilibre qu'il y a entre notre compréhension de ce que vous racontez, parce que bah, vous êtes quand même bien obligé d'utiliser les outils qui sont les nôtres aujourd'hui dans un univers qui est totalement différent. Donc là aussi, les repères finalement et les balises sont un peu bousculés.
Alors, il y a un auteur de fantasy qui a dit que certains conflits de notre époque ne peuvent absolument pas être utilisés dans un roman, dans un conflit israélo-palestinien, parce que aussitôt les gens ont leurs idées sur la question, ils ont leur camp, ils ont lu des tas de choses dessus, et ils sont convaincus d'avoir raison ou de savoir ce qui se passe. Alors finalement, vous n'avez plus les Israéliens et les Palestiniens, mais vous les appelez les elfes et les orques, vous ne savez pas. Et bien là, vous pouvez commencer à parler de quelque chose qui ressemble sans que les gens aient d'un coup aussi.
Avoir une objectivité différente.
Exactement. Mais en ayant ce décalage, vous permettez de débloquer des situations. Parce que les gens découvrent la situation en même temps qu'ils lisent le roman, ils n'ont pas été très convaincus qui est bon et qui est mauvais.
Est-ce que justement c'est pas ça avant tout le rôle d'une littérature de l'imaginaire, c'est justement voilà, de susciter le décalage pour qu'on devienne spectateur finalement d'une situation et non plus acteur ou en tout cas engagé dans la même situation au quotidien.
Effectivement ce décalage, c'est le principe même de la fantaisie. On va mettre des personnages dans un univers qui n'existe pas, avec des règles qui n'ont pas Et effectivement, malgré toutes ces règles différentes, le lecteur ne pourra pas s'intéresser s'il ne reconnaît pas des éléments sur sa propre univers, sa propre vie. Mais c'est pas sa vie qu'on veut lui montrer, c'est autre chose. Et c'est ce décalage qui l'intéresse. C'est-à-dire, si vous voyez un cheval aidé, ça l'intéresse parce que ça le fait rêver. En même temps, c'est juste un cheval qui bouge, hein, mais qui l'emmène d'un lieu à un autre. Et donc, ça reste un moyen de transport. Mais on ne va surtout pas le dire au lecteur. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui va se rêver.
PJ Hérault, là, on en a nous déjà un petit peu parlé avec votre travail autour de la science-fiction, mais justement les valeurs, le côté bien et mal, là encore, pour reprendre quand il ne reste que l'honneur, finalement, on commence par un conflit dont on ne connaît strictement rien. On n'a pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas s'il y a des gentils et des méchants finalement.
Probablement des gens et des gens, mais c'est le seul cas dans n'importe quel côté. Hein. Si en 44 on avait porté la chute allemande, le soldat allemand, comment était survenue la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient été incapables de le dire. Ils ont oublié, c'est des strates de dire en dessous, il y a eu tellement de choses qui ont déroulé depuis, tellement de souvent, ils ont oublié le temps. Quand ça a commencé, c'est pas comme légalisant, c'est pas l'important. C'est important, c'est
physique. Et justement, le point commun qu'il va y avoir et qui va être un peu le fil conducteur et puis qui va permettre ensuite de dénouer une situation vraiment complexe, c'est cette valeur qui est l'honneur qui va faire réagir les différents acteurs de l'histoire, on va faire vibrer des cordes différentes chez les uns et chez les autres.
Oui, c'est pourtant fragile, hein, l'honneur. Quelles sont les conceptions qu'on a de l'honneur, si ça varie d'un ou de l'autre. C'est tellement, tellement fragile. C'est ça qu'il faut aussi ce que je vais essayer de souligner là. Pour certains combattants, l'honneur va être quelque chose de précis. Mais pour certains seulement, c'est la chose la plus fragile qui soit dans une situation qui est très, très matérialiste. Il y a mort, il y a des souffrances, l'obéissance est la plus forte.
Il y a un objet dans le livre qui s'appelle la pilule de l'honneur. Une petite pilule qu'ils ont tous sur eux et qui leur permet finalement de se donner la mort.
Oui.
Est-ce que justement, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très frappant dans le livre, c'est qu'il y a une proximité entre l'honneur et la mort qui est assez effrayante finalement.
Je pense que pour les gens qui accordent de l'importance à l'honneur, l'honneur et la mort, c'est pas l'un et l'autre. L'honneur de la vie et de la mort, c'est l'honneur des bouches directement sur la vie et directement sur la mort. Donc, pour des soldats, plus encore. J'avais oublié le détail,
Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Et puis, vous l'aurez compris, hein, l'important, c'est que vous remarquiez peut-être plus le talent qu'ils ont tous, parce que c'est qu'ils sont assez grands en nombre, c'est trop modeste pour le dire eux-mêmes. Et puis, le travail acharné, vous le verrez aussi, parce que forcément, comme le disait Silène au début, hein, on a beau avoir le plus grand talent du monde, s'il n'y a pas de travail à côté, ça n'avance pas forcément. En tout cas, moi, je vous invite à venir découvrir les trois auteurs sur leur stand, et puis également, évidemment, leurs livres, et de découvrir leurs univers. Vous verrez, il y a des choses vraiment... c'est une table ronde qui a été très bien faite, parce qu'on est vraiment dans trois univers vraiment très, très différents, avec des aspects très différents. Et puis, je pense aussi, peut-être pour des lecteurs assez différents les uns des autres, et en même temps, je pense que vous pouvez retrouver des points communs et des racines communes à ces trois auteurs. Merci beaucoup.